Classique. Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter sur l'alignement des planètes. L'alignement des planètes aujourd'hui en faveur de Vladimir Poutine. Et si l'on parle d'alignement des planètes en faveur de Vladimir Poutine, c'est essentiellement parce que Donald Trump a toute chance, pour le moment, d'être élu ou réélu président des États-Unis. Donc nous allons essayer de développer tout cela avec Michel Duclos. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Marie.
Michel Duclos qui est ancien ambassadeur et qui est aujourd'hui conseiller de l'Institut Montaigne. Et donc nous allons partir de cela, de ce constat, Michel Duclos. On sait que Donald Trump a une tendresse pour Vladimir Poutine, qu'en tout cas il est assez proche des objectifs de Vladimir Poutine et que le seul fait qu'il mette fin à l'aide à l'Ukraine, comme le font en ce moment d'ailleurs les élus républicains sous l'influence de Donald Trump, puisqu'il bloque un nouveau programme d'aide à l'Ukraine qui est évidemment indispensable si l'Ukraine veut continuer de résister. Et donc c'est cette perspective-là qui, au fond, signerait la victoire de Vladimir Poutine dans son combat, il faut bien appeler les choses comme elles sont, contre l'Occident. On dit souvent que Vladimir Poutine n'a pas d'idéologie. Si, il a une idéologie qui est l'idéologie d'être le fer de lance de la destruction de l'Occident et des valeurs qu'il considère comme des valeurs décadentes. Michel Duclos, est-ce que c'est un bon point de départ de considérer cela ?
Alors, non seulement Trump a une grande affinité avec Poutine, comme vous le dites, mais il y a deux points supplémentaires qu'il faut avoir à l'esprit. D'abord, il déteste Zelensky. Et il imagine dans sa psychologie que Zelensky lui a manqué en ne l'aidant pas dans l'affaire du fils de Biden. Il s'attendait que Zelensky l'aide à démolir Biden sur ce point. Et puis le deuxième aspect, je crois, c'est que il est sans doute prêt à faire, d'autant plus prêt à faire un deal avec Poutine, que ça entre bien dans sa stratégie vis-à-vis de la Chine. Et donc, l'idée, pour décrocher la Russie de la Chine, rien de tel que de donner l'Europe à Poutine, pour parler comme Yeltsin, vous savez, qui avait dit au président des États-Unis « donne-moi l'Europe ». Alors, sur ce deuxième point, je ne suis pas très sûr que Trump aille aussi loin, mais il aura certainement des conseillers qui iront dans ce sens. Lui-même, c'est plus l'aspect personnel, je le crains, et qui est encore plus fort. Et donc, il faut se présenter cela. Il arrive à la Maison Blanche. Il a dit lui-même qu'il s'est vanté lui-même de pouvoir régler le problème
en
24 heures, oui. Et donc, il appelle Poutine, ou Poutine l'appelle pour le féliciter, et Trump lui dit, bon, bah, écoute, voilà, parlons-nous, qu'est-ce que tu proposes? On fait tout de suite un cessez-le-feu, quelque chose comme ça.
Jean-Claude.
Oui, non, c'est exactement ça. Et donc, l'Europe est, si j'ose dire, plongée dans l'obligation d'avoir une grande politique. Et tout le problème de l'Europe est de sa capacité à avoir une grande politique, c'est-à-dire de devenir... l'Europe a pris conscience, je crois, de la menace russe, et elle a pris moins conscience de sa subsidiarité défensive, c'est-à-dire de sa capacité à suppléer les États-Unis pour assurer sa propre sécurité. Et donc, si l'épreuve Trump tombe, c'est-à-dire si Trump est élu, ça sera vraiment une épreuve de vérité pour l'Europe de rapidement montrer qu'il y a des choses qu'elle n'accepte pas et d'autres que... Et je suis, en ce qui me concerne, optimiste par la volonté et inquiet par l'analyse.
Alors, je crois qu'effectivement, l'un des motifs du durcissement de Macron, c'est évidemment ça. C'est-à-dire qu'il a conscience qu'il faut se préparer à une hypothèse Trump. Disons-le, c'est une hypothèse, bien sûr, parce que c'est pas quand même du tout sûr qu'il va gagner, bien entendu. Mais il faut quand même cette fois-ci se préparer. Et je pense que dans l'attitude de Macron, il y a ça. Alors, il y a un autre facteur d'espoir. Je ne sais pas si on peut le dire, mais disons-le quand même. C'est que Poutine est capable de rater l'occasion. Ça s'est vu d'autres fois. C'est-à-dire la suite du coup de fil. Trump dit, bon, alors d'accord, entendons-nous, on va commencer par geler la situation, etc. Et Poutine est capable de dire, oui, mais j'ai besoin d'Odessa. Ou j'ai besoin de ceci ou de cela. Parce que s'il dit, j'ai besoin que Zelensky, que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN, ça, il l'obtient immédiatement. Mais naturellement, il en voudra plus. Et c'est là où les choses peuvent se compliquer, quand même.
Oui, parce qu'Odessa, que vous citez, est évidemment un début de guerre de Vladimir Poutine, de plus en plus évident, d'ailleurs.
Bah, mes amis russes me disent, là, si on s'arrête là, bah, il n'a rien vraiment gagné, il ne passe pas à l'histoire.
Oui, puisqu'il a déjà annexé les deux régions du sud de l'Ukraine.
Il montre des cartes dans lesquelles l'Ukraine est réduite à l'environnement de Kiev. L'Ukraine n'a plus de littoral, et n'a plus d'est, donc c'est un petit pays autour de Kiev. Voilà.
Alors vous évoquiez, Michel Duclos et Jean-Claude Casanova, le fait qu'un certain nombre de pays, enfin notamment la plupart des pays européens, ont pris conscience vraiment de la vraie nature de Vladimir Poutine, alors qu'auparavant on se berçait d'illusions quand même, jusqu'au fait de nier que Vladimir Poutine puisse envahir l'Ukraine. Donc il y a eu un déni, une erreur monumentale. Aujourd'hui que ça semble corrigé, mais est-ce que cela va jusqu'à ce que évoquait Jean-Claude tout à l'heure, c'est-à-dire considérer qu'en effet, il faut que l'Europe se structure sa propre défense. Ce qui est une thèse française depuis longtemps, mais qui est une thèse française que personne n'a jamais acceptée dans le reste de l'Europe, Michel Duclos. Est-ce que les choses de ce point de vue-là avancent? Parce que je me souviens bien que le premier épisode Trump, Angela Merkel, la chancelière allemande, avait dit « c'est une trahison ». S'agissant de l'attitude de Trump vis-à-vis de l'OTAN, vis-à-vis de l'aide qu'il faut ou non apporter aux Européens, Michel Duclos.
Elle avait dit au retour de Washington, à la conférence de Munich, maintenant il faut que nous nous organisions par nous-mêmes. Mais elle l'a dit une fois, et après elle est revenue à la tradition. Et je pense qu'en Allemagne, en tous les cas, peut-être pas partout, mais sûrement en Allemagne et dans d'autres pays, il y a quand même l'idée reste fondamentale que c'est uniquement avec les Américains qu'on y arrivera. Et donc, je crains que le jour où Trump, par hypothèse, hein, encore une fois, c'est un scénario, arrive à la Maison-Blanche, il est clair que beaucoup de pays à l'Est chercheront un arrangement bilatéral avec Washington, en substitution à l'OTAN, et les Allemands seront partagés, mais ils seront prêts à faire beaucoup de concessions pour que les États-Unis restent. Et donc l'idée française, je le crains, ne s'appliquera pas complètement.
Jean-Claude Casanova.
Quand on observe la satisfaction des Suédois, manifestement, ils se rendent à Washington, ils entrent dans l'OTAN, et manifestement, c'est très important d'ailleurs, le fait, historiquement, le fait que la Suède renonce à sa neutralité séculaire. Bon. Mais en même temps, on voit bien qu'ils ne pensent pas un système de défense sans les États-Unis. Je suis persuadé que l'Angleterre, si les travaillistes viennent au pouvoir, ne pense pas à un système sans les États-Unis. Donc, Macron a totalement raison. Le problème est, sera-t-il suivi? Ça sera très difficile et ça sera vraiment... L'Europe sera plongée dans un bain où les décisions seront nécessaires et où, je le crains, elle se divisera.
Alors, puisque l'on évoque Emmanuel Macron, parlons-en. Emmanuel Macron a monopolisé un petit peu l'attention avec cette fameuse formule sur l'hypothèse en dynamique, disait-il, d'envoi de troupes au sol. Alors évidemment, il y a une confusion totale qui perdure pour des intérêts à la fois de simplification médiatique et puis d'intérêt politique pour quiconque veut mettre en difficulté Emmanuel Macron, qui consiste à prendre au pied de la lettre, l'expression « troupes au sol ». Alors que tout le monde sait, enfin, ou devrait savoir que ces fameuses troupes au sol, ce sont en fait des techniciens qui sont là et qui sont déjà là, déjà sur le terrain, comme l'a révélé le chancelier allemand. Il y a déjà des techniciens français et britanniques pour aider les Ukrainiens à utiliser les armes qu'on leur livre. Est-ce que, à vos yeux, Michel Duclos, donc cet épisode était de nature à isoler, comme on le dit maintenant, Emmanuel Macron du reste de l'Europe, ou bien au contraire, est-ce que les pays européens ne sont pas plutôt, enfin je parle des pays les plus concernés, c'est-à-dire les pays de l'Est de l'Europe, ne sont pas plutôt rassurés par le fait qu'Emmanuel Macron a enfin défini une ligne claire et ferme vis-à-vis de la Russie, alors qu'au tout début, il se distinguait par sa complaisance vis-à-vis de la Russie, voilà, Michel Duclos.
Je suis plutôt de votre deuxième épisode. Le verre est à moitié plein, mais le verre est à moitié vide au départ, et il se remplit finalement au fur et à mesure que les jours passent. Je dis le verre est à moitié vide parce que c'est sûr que c'était prendre un risque d'antagoniser à peu près tous nos partenaires, d'aller aussi loin, etc. Le verre maintenant tente à se remplir parce que on voit que ça a provoqué un électrochoc et que finalement, d'abord, il faut pas oublier qu'il y a quand même des courants d'opinion à l'Est qui, ces courants-là sont très favorables, très contents que la France prenne enfin la place qui doit être la sienne, pour dire les choses très, très simplement. Alors même si les gouvernements sont obligés d'être plus prudents, etc. Donc ça a un effet de clarification qui est quand même pas négligeable. Alors là, évidemment, là où on est dans un moment délicat, c'est dans la relation franco-allemande. Parce qu'au fond, tout se passe comme si Macron est en train de faire une OPA sur ces pays qui sont naturellement dans la mouvance de l'Allemagne. Et donc, puisqu'il n'est pas d'accord avec Scholz, qu'on n'est pas capable, comme c'est la tradition, de trouver un compromis, il dit, à mon tour, je vais aller sur les terres qui sont d'habitude les terres allemandes. Donc, au fond, c'est un moment difficile. C'est pas sûr que le président ait choisi les bons mots, que sa méthode soit la bonne, mais à la fin des fins, ça peut quand même avoir des effets positifs, je crois.
Jean-Claude Casanova.
Je pense, je ne suis pas d'assez près de la situation allemande, mais c'est assez facile d'imaginer les raisonnements possibles. Une fraction de l'opinion allemande doit se dire, on exagère, d'abord il n'y a pas de certitude que Trump arrive, ensuite si Trump arrive, il n'y a pas de certitude qu'il y ait une vraie rupture de la politique américaine, donc il n'y a pas de raison de se presser. Et il y a vraisemblablement dans l'arrière-fond allemand l'idée que ce changement dans la nature des relations internationales est totalement inconfortable. Ils sont au fond sur un tremplin qui est la pacification par l'échange commercial, qui correspondait à la nature de leur économie. C'est une énorme économie exportatrice d'automobiles et de biens d'équipement, et tout ça remet en cause sa structure économique, sa vision philosophique, et donc la transition allemande est difficile. Mais elle est déjà en marche quand même. L'opinion allemande est partagée. Il y a une partie importante de l'Allemagne qui est sur la même position que Macron. Quand on regarde les déclarations des libéraux qui sont dans la majorité, ou d'une fraction des écologistes, ils sont sur la même position que Macron. Et il y a une espèce d'isolement à l'intérieur du Parti Socialiste, et sans doute dans la bureaucratie allemande, dans l'opinion allemande, dans le patronat allemand.
Alors ce qui est nouveau quand même, c'est la fraîcheur, pour ne pas dire plus, des relations entre le président de la République et le chancelier. On a rarement connu cela, un tel divorce manifeste, parce que au sortir des déclarations d'Emmanuel Macron sur les troupes au sol, on a eu le chancelier qui est plusieurs fois revenu sur le sujet et qui a plusieurs fois voulu marquer qu'il était en désaccord et qui invoquait non seulement son point de vue, le point de vue de l'Allemagne, mais aussi le point de vue de l'OTAN, le point de vue des autres Européens pour faire pièce au fond au discours d'Emmanuel Macron. Donc on a rarement vu à la fois une période où Français et Allemands ne se concertent pas, et non seulement ils ne se concertent pas, mais en plus ils prennent des positions publiques qui manifestent leur entre guillemets quasi divorce. Est-ce que comment évaluer ce passage, Michel Duclos?
Il y avait eu un épisode Chirac-Schröder tout à fait au début lors de du sommet de l'Union européenne à Nice qui ressemblait un peu à ça. Et après les deux hommes justement se sont dit plus jamais ça et ils sont devenus au contraire assez proches. Là j'explique ça par conjonction de facteurs. Il y a un facteur personnel, c'est que les deux hommes sont des cérébraux qui sont sûrs d'avoir raison. Et donc, je pense que le dialogue entre eux est difficile. Il y a un changement de génération. Il ne faut pas oublier quand même que la perception de la France par l'Allemagne a beaucoup changé, puisque notre décrochage économique fait que depuis maintenant pas mal de temps, Il considère que ça suffit d'avoir toujours ce respect vis-à-vis de Paris. Dans le monde aussi, ils ont pris une place qui n'était pas la leur, au Proche-Orient et ailleurs. Et donc, la considération vis-à-vis de la France a quand même beaucoup baissé en Allemagne. Il faut dire les choses très, très, très simplement. Et là, je pense que ce que Scholz doit... Le ressentiment qu'il a, c'est que l'Allemagne fait beaucoup plus, plus de deux fois plus vis-à-vis de l'Ukraine que nous. Et on prétend quand même donner des leçons aux Allemands. Donc, pour lui, c'est insupportable. Et en plus, le partenaire français ne prend pas en compte la spécificité du débat intérieur allemand. Ce qui était quand même la tradition. Mitterrand savait jusqu'où ne pas aller trop loin, parce qu'il savait qu'il y a une opinion allemande qui n'est pas comme la nôtre. Donc, il y avait cette habitude d'en tenir compte, ce qui n'est pas vraiment le cas de Macron. Et je dois dire, pour être... un peu honnête vis-à-vis de Macron, c'est que dans les deux premières années, vous savez, de 2017 à 2019...
Son premier quinquennat, oui.
Il a été extraordinairement patient vis-à-vis des Allemands. Il avait fait à la Sorbonne et dans d'autres discours des propositions très précises qui allaient dans le sens d'un renforcement de l'Europe. Il s'attendait à ce que Merkel lui renvoie à l'ascenseur. Ça n'a pas été le cas. Et donc c'est uniquement... à partir de 2019, qu'il a changé de ton et adopté cette attitude qui est la sienne maintenant, qui est beaucoup plus impérialiste, beaucoup plus affirmée, si vous voulez.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Michel Duclos, ancien ambassadeur, spécialiste de géopolitique auprès de l'Institut Montaigne, et nous évoquions à la fois les conséquences de l'hypothèse d'une victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine, les conséquences en Europe, et puis nous nous arrêtions à, il y a quelques instants sur la paralysie ou la fin, peut-on dire, du couple franco-allemand. On a toujours raisonné depuis des lustres sur l'idée que le noyau de l'Europe, le noyau dur, c'est le couple franco-allemand, que rien ne peut se faire sans le couple franco-allemand, et voilà que ce couple est donc défait. C'est ce que vous étiez en train de nous expliquer, Michel Duclos. Jean-Claude Casanova.
Oui, il y a eu d'autres percées. On a tenté un moment avec Chirac un couple franco-anglais à cause de la communauté en matière de défense avec l'Angleterre. Et d'autre part, il ne faut pas sous-estimer dans la politique allemande, par exemple, ils ont l'air d'être très pro-américains, etc. Mais quand même la détermination que l'Allemagne a maintenue presque jusqu'au dernier moment d'avoir un pipe au nord de l'Europe et qui affaiblissait la position de l'Ukraine, qui était condamnée par les États-Unis, condamnée par l'OTAN, etc. Les Allemands faisaient semblant de ne pas entendre. Ils continuaient imperturbablement à vouloir une alimentation en gaz et en pétrole, contournant l'Ukraine, ce qui était tout de suite a été perçu comme dangereux, aussi bien à Washington qu'à Paris. Et donc, il y a une lourdeur allemande qui est très difficile à déplacer. Je crois que c'est lié à leur vision historique. Ils ne sont pas encore sortis de l'après-guerre et du refus d'une grande politique en Allemagne. Ils ont encore, je crois, très présent dans l'opinion allemande, un rêve économique, un rêve dans lequel la politique n'est pas au premier rang. On le voit d'ailleurs sur la question actuellement de la Banque Centrale Européenne. On voit, les Français ne manquent jamais, évidemment. Les Français veulent des taux d'intérêt bas. On les a persuadés que le déficit budgétaire et les taux d'intérêt bas, c'était le remède absolu. Alors, ils veulent des taux d'intérêt bas. Évidemment, ça crispe les Allemands et ça mécontente l'opinion allemande, etc. Donc, je crois qu'il faut espérer un réveil progressif. Il y avait un chant allemand qui était très mal vu parce qu'il était invoqué par les nationaux socialistes, c'était Allemagne, réveille-toi. Alors, on ne peut pas dire Allemagne, réveille-toi d'un seul coup. Ce qu'il faut leur dire, c'est réveille-toi progressivement. Prends conscience de la situation internationale et évolue en ce sens.
Michel Duclos.
Si je peux faire deux remarques. Bon, la première, c'est dans le brouhaha actuel de la polémique sur les fameuses troupes au sol, que vous avez eu raison, Jean-Marie, de ramener à des plus justes proportions. Et comme souvent, ce qui est bizarre, c'est que on passe peut-être à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est par exemple que la France a levé ses objections à l'emploi de l'argent européen pour acheter des munitions ailleurs qu'en Europe. Et c'est aussi cette coalition incroyable sur les frappes en profondeur. Ce qui veut dire que maintenant, il est devenu légitime, il paraît banal, que les alliés aident l'Ukraine à taper en territoire russe, ou en Crimée et en territoire russe. Et ça c'est un déplacement du débat ou un changement de pied pour les gouvernements qui est beaucoup plus important en réalité que d'envoyer quelques experts sur le terrain et qui passe inaperçu. Alors la deuxième remarque pour compléter ce que disait Jean-Claude, c'est que, alors surtout si Trump arrive, mais au fond, il faut bien voir que de toute façon, les États-Unis s'éloignent. Ils sont devenus dysfonctionnels, comme on le voit avec le fait que le Congrès ne vote pas l'aide à l'Ukraine. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, ils s'éloignent. Et donc, il est vital qu'à un moment ou à un autre, la connexion Londres-Paris-Berlin et maintenant Varsovie se reconstitue ou se constitue. Et là, les Anglais ont sans doute un rôle à jouer dans l'actuelle difficulté du dialogue franco-allemand, et peut-être, après tout, les Polonais aussi.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, c'est exactement ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que la Pologne et l'Angleterre, qui ont une conscience politique aiguë, interviennent. D'ailleurs, si on lit simplement, je suis un vieil abonné, un vieux lecteur de The Economist, si on lit attentivement The Economist, ils définissent une politique, c'est-à-dire qu'ils redoutent, Trump. Peut-être que d'ailleurs nous exagérons en annonçant que Trump sera élu. Il y aura vraisemblablement des forces de résistance, mais la tendance est actuellement mauvaise. Et l'idée qu'on doit substituer à la sécurité qu'offrent les Américains à l'Europe, une sécurité que l'Europe s'offre à elle-même, devient de plus en plus prégnante. Elle est moins prégnante en Allemagne parce que ça bouleverse davantage les perspectives allemandes que ça ne bouleverse les perspectives anglaises, françaises ou polonaises. Si j'ose dire, les trois pays pensent naturellement de cette façon, la Pologne, l'Angleterre et la France. L'Allemagne, pas tout à fait.
Pas tout à fait. Alors, pour nous, la difficulté qu'on a, c'est que ce pilier européen de la défense, cette défense européenne, etc., ça ne se fera qu'au sein de l'OTAN. Et donc, l'éloignement des États-Unis, quelle que soit la forme qu'ils prennent, devrait se traduire par une politique d'OPA des Européens sur l'OTAN. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire sans trop le dire, et pour lesquelles nous, Français, on n'est pas très bien placés parce que c'est une institution dont on fait partie depuis l'origine, mais dans laquelle on ne s'est jamais complètement senti à l'aise, au moins depuis que le général de Gaulle a quitté l'organisation militaire. Et donc, on a un problème culturel. Nos militaires ne sont pas anti-atlantiques, etc., mais ils ne sont pas très présents dans les structures de l'OTAN. Et donc, c'est un animal qu'on a un peu de mal à appréhender. Or, je crains qu'une défense européenne, une Europe de la défense, ça passe quand même par cette OPA des Européens sur l'OTAN.
Puis on a toujours une part de l'opinion qui est farouchement anti-américaine, laquelle d'ailleurs se retrouve dans la part de l'opinion qui reste, j'allais dire, convaincue que la Russie est presque l'allié naturel de la France, qui reste évidemment historiquement à démontrer.
C'est une folie. Parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que la Russie et Poutine considèrent que l'Europe ne doit pas exister. Là, il y a vraiment un axe clair de la politique russe, qui est même, si j'ose dire, indépendant de Poutine, puisque la Russie ne peut être une grande puissance que si l'Europe n'existe pas.
Oui, d'ailleurs, et on sait qu'en fait, Vladimir Poutine est à la recherche d'un nouveau Yalta avec les États-Unis. C'est évident. Alors, on n'a plus trop le temps d'en parler, mais il aurait fallu aussi aborder le lien confirmé entre la Russie et la Chine, parce que la Chine pèse quand même d'un poids non négligeable en faveur de Vladimir Poutine, qui a été confirmé par les récentes déclarations du président chinois. Mais là, c'est un petit peu tard, mais juste d'un mot, peut-être, Michel Duclos.
Il ne faut pas se faire d'illusions. Si l'Ukraine perd, la Chine nous regardera autrement. Et là, elle se gênera encore moins pour soutenir la Russie. Je crois, c'est une forme d'hypothèse, mais que les Russes se rendent compte, évidemment, qu'ils deviennent petit à petit les junior partners, comme on dit en anglais, des Chinois. Et ils ont d'autant plus besoin de dominer l'Europe pour compenser cette infériorité vis-à-vis de Pékin.
Voilà, on va rester sur cette note qui n'est guère optimiste de Michel Duclos. Donc, merci Michel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous étiez ambassadeur de France pendant longtemps et que vous êtes aujourd'hui le conseiller de l'Institut Montaigne. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions donc et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.